La revue de presse avec Philippe Gaud.
Et voilà, cette revue de presse, c'est un peu jour de foot ce matin, Philippe.
Oui, avec un nom qui revient à la une de la plupart des journaux. Et ce nom, c'est évidemment celui de Karim Benzema, le 5e ballon d'or français. Un ballon qui revient à la maison, titre l'Équipe, tandis que le Parisien estime qu'hier, l'attaquant du Real a vécu le plus beau soir de sa vie. Alors que pour le Figaro, ce ballon d'or est l'éloge du travail et de l'ambition. Karim Benzema également à la une de la plupart des quotidiens de la presse régionale, du Progrès aux Républicains Lorrains qui en font leur manchette, en passant par la Marseillaise et la Provence, qui soulignent le rôle de Zinedine Zidane, l'enfant du pays, dans l'avènement de l'attaquant du Real Madrid qu'il a entraîné. Dans la presse ibérique, Marca salue non seulement le ballon d'or du Madrilène, mais également le deuxième consécutif d'Alexa Putellas, la joueuse du Barça, et AS, l'autre grand quotidien sportif espagnol, ose un jeu de mots à sa une en titrant « Bagno de Oro » qu'on traduira par « plaqué or ».
Retour en France avec un climat social que nous allons aborder évidemment avec Hervé Gattegno et Rachel Kahn dans un instant. Plus gris que doré.
Oui, grève, pénurie, transport, le blocage, titre le Midi Libre, qui propose un entretien avec Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, syndicat qui ne participera pas à cette journée de grève nationale aujourd'hui. Laurent Berger qui estime que, je cite, « le bordel ». Pour le bordel, ça n'a jamais servi à personne. La dépêche du Midi pose une question, rentrée sociale, stop ou encore. Tandis que pour Libération, l'heure est grève pour Emmanuel Macron. Libé qui revient sur un mois de ratés gouvernementaux qui ont mis la Macronie en galère totale, nouveau jeu de mots. Dans son éditorial, Alexandra Schwarzbrod estime qu'en se montrant en raccord avec Bruno Le Maire, qui se déclarait ouvertement hostile à une taxe sur les super-profits générés par la crise de l'énergie, le chef de l'État a achevé de placer l'exécutif dans le camp des grands patrons, en déconnexion totale avec une grande partie des Français qui souffrent de l'inflation au quotidien.
Cette taxe sur les super-profits qui agite les bancs de l'Assemblée nationale.
Oui, selon le Figaro, la chasse aux riches est en effet ouverte et embrase le débat au Palais Bourbon où, entre exit tax, super profit, super dividende, les mesures sanctions se succèdent. Tout est super dans la France en crise de 2022 lorsqu'il s'agit de trouver des boucs émissaires face à la grogne générale, estime Gaëtan de Capelle dans son éditorial. Taxer, 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 c'est chez nous, tout finit, la main dans la poche du contribuable, s'insurge l'éditorialiste du Figaro, qui constate néanmoins qu'au-delà de la seule NUPES, affecté du réflexe pavlovien de l'impôt, on découvre au hasard des séances de nuit à l'Assemblée que la Macronie, le Modem et même les Républicains ont été contaminés au risque, dit-il, pour la droite de ne pas retrouver ses électeurs et encore moins sa crédibilité.
Mais évidemment, sur le plan politique, tout ça est aussi lié à l'affaire du 49-3 que le gouvernement pourrait utiliser, on en parle depuis plusieurs jours, voire depuis plusieurs semaines, pour faire adopter sans vote le budget 2023.
Et pour l'Execo, l'exécutif prépare le terrain pour ce fameux article 49-3. Selon le quotidien économique, celui-ci devrait intervenir demain mercredi. Pour Nicolas Bétou, à la une de l'Opinion, cela fait des semaines que le gouvernement se fait des nœuds au cerveau à propos de l'utilisation du 49-3, des semaines pendant lesquelles il a sous-estimé ce qui se passait aux abords des stations-service. Pour le patron de l'Opinion, il règne une impression de flottement à la tête de l'État et ce qui peut réussir en politique, le fameux « en même temps », ne fonctionne pas en matière sociale. Et de conclure, donner raison au patronat ou au syndicat, il faut choisir. Pour Cécile Cornudet des Échos, au terme de cette séquence, l'exécutif pourra certes considérer qu'il est parvenu à tenir la digue sans créer d'impôts nouveaux ni surtaxes, mais selon certains, il aura perdu la bataille de la communication et le sentiment d'injustice continuera à miner le jeu politique et social.
Et nous terminons avec le front ukrainien où l'armée russe en difficulté reçoit le soutien de l'Iran.
Le rôle croissant de l'Iran aux côtés de la Russie est en effet souligné par La Croix et Le Figaro. Téhéran a beau affirmer ne pas avoir fourni de matériel militaire à l'armée russe, les services de renseignements ukrainiens et occidentaux ont bien identifié l'apparition depuis quelques jours de drones iraniens sur le champ de bataille. L'armée ukrainienne assure en avoir abattu 37 depuis dimanche soir et en avoir intercepté une dizaine la semaine dernière. Ces drones Shahed 136, dits kamikazes, ont un intérêt tactique certes limité car leur guidage par GPS les rend faciles à brouiller et à la merci des défenses antiaériennes, mais ils permettent malgré tout à l'armée russe de maintenir le centre de l'Ukraine sous pression, estime le Figaro. L'inquiétude vient plutôt du fait que le soutien iranien ne se limite pas à la fourniture de ces drones suicides. Téhéran, qui a mis à disposition des instructeurs pour former les pilotes russes, a également livré d'autres modèles de drones, les Arash-2 et les Moager 6, qui sont plus rapides ou peuvent emporter des munitions et s'avérer donc plus destructeurs. L'Iran, qui, selon le Washington Post, s'apprête également à livrer à Moscou des missiles missiles balistiques capables de frapper des cibles à des distances de 300 à 700 kilomètres. Avec ce soutien à la Russie, l'Iran risque quand même de se retrouver à nouveau à l'index de la communauté internationale, car depuis 2015, une résolution des Nations Unies interdit à Téhéran d'exporter des missiles jusqu'à 2023.
Signature de Philippe Gault pour la revue de presse, 8h38, Rachel Kahn, Hervé Gattegno.